sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mercredi 23 avril 2025, nous serons en direct de 20h à 21h et le replay sera disponible dès demain sur le site internet de Radio Galère. Dans cette émission, nous recevons des invités qui, par leur parcours de vie ou leur engagement, explorent ce que signifie vraiment « écouter ». Qu'il s'agisse d'une expérience intime ou d'une action tournée vers les autres, chaque voix ici éclaire une facette de cette qualité si précieuse et pourtant si rare, l'écoute. Des scènes culturelles au terrain de sport, en passant par les cercles associatifs ou les ateliers artistiques, nous recevons des invités pour qui l'écoute est bien plus qu'une posture, c'est une boussole, un moteur, une manière d'habiter le monde. À travers leurs récits, nous cherchons à comprendre comment se crée le dialogue, comment on construit le lien, comment on cohabite dans une société traversée par des désirs multiples. Car s'écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est accueillir, créer de l'espace, tisser du lien, tisser du commun. Et parfois, cet espace naît d'une chanson, d'un geste, d'un silence, d'un regard. Alors prenons ce temps. Et si, pour une fois, on s'écoutait vraiment ? Je suis Marion Milsan et avec Chloé Lenders, nous animons cette émission. Bonsoir Chloé, ça va ?
Oui, bonsoir.
Alors, avec nous aujourd'hui, nous recevons Julie Telfour, qui est coordinatrice des activités et services du Tiers Lab des Transitions, qu'on va présenter dans cette émission. Comment ça va, Julie ?
Bah, nickel, hein. C'est toujours très bizarre de parler la première fois.
Alors, Julie, on a l'habitude de poser cette première question à nos invités pour savoir ce que ça t'évoque, le titre de notre émission « Et si on s'écoutait ?»
Déjà, merci de m'avoir invitée pour commencer. Et sur ce titre, j'avoue que ça m'a donné un petit peu de quoi gamberger. Je parle de moi personnellement, ça fait écho à, je pense, une phase un peu nouvelle et qui date d'il y a quelques années maintenant, où je pense que j'ai enfin appris à m'écouter un peu plus. Et j'ai réalisé que c'était pas vraiment le cas avant. Et en même temps, ce « on », il est assez intéressant parce que souvent, on n'ose pas trop parler de soi, donc on dit souvent « on ». Donc c'est clairement ce lien que je fais avec moi-même. Et puis si on s'écoutait tous les uns les autres, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc cette double question et ce petit moment vague laissé sur qui y a derrière ce « on », tour à tour, ça peut être soi, ça peut être vous et moi, ça peut être plein de gens. Donc je trouve ça très chouette. Et ça résonne beaucoup, beaucoup avec ce que je traverse en ce moment et ce qu'on traverse au Tiers Lab des Transitions.
On va en parler. Tu es avec nous justement ce soir pour présenter le Tiers Lab des Transitions, qui est un espace hybride créé par le LICA et dédié aux transitions écologiques, numériques et sociales. Donc je fais juste une petite aparté. Le LICA, c'est le laboratoire d'intelligence collective et artificielle qui est basé dans le 4e arrondissement de Marseille. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, vous auditeurs, auditrices, qui est situé au cœur d'un parc boisé de 6000 mètres carrés. Dis donc, c'est un laboratoire à ciel ouvert qui se veut être créateur de sens et de coopération visant à faciliter les transitions sociétales. Vous y déployez des outils innovants d'intelligence collective et d'intelligence artificielle pour passer à l'action sur les enjeux d'écologie et de climat, de gouvernance et d'avenir du travail. Donc si on résume un petit peu, car les projets sont vastes, le LICA c'est des événements, des visites, tu me dis si je me trompe Julie, des formations, des ateliers, du conseil et des accompagnements et enfin le Tiers Lab des Transitions.
Exactement, en gros, pour synthétiser, parce que quand tu le dis, c'est là que je me rends compte que c'est quand même pas facile à agripper. En résumé, ce qu'on dit souvent, c'est que le Tiers Lab, ça va être le contenu, la tête, le corps, le cœur. Enfin, le cœur et la tête plutôt. Et le Tiers Lab, ça va plutôt être le corps, à savoir l'espace, le lieu. Les deux structures sont forcément liées puisque l'une a la maternité de l'autre. C'est le LICA qui a l'initiative, qui a le lien initial avec le lieu, puisque du coup, c'est là qu'est né le LICA concrètement. Deux des cofondateurs vivaient dans l'espace que tu mentionnais, ce fameux terrain de 6000 mètres carrés qui était privé avant et qui petit à petit s'est transformé du fait de la présence du LICA, qui est donc une coopérative qui aujourd'hui compte une vingtaine de personnes. Et donc ça a été un espace double avec des personnes qui habitaient là, des personnes qui travaillaient là, des gens qui venaient suivre des formations. Et le LICA, en fait, s'est saisi d'une opportunité ou en tout cas peut-être même d'une menace, puisqu'en fait, il y a 4 ans maintenant, les anciens propriétaires ont décidé de revendre. Et c'est à ce moment-là que, de fait, il fallait bien prendre une décision sur ce qu'allait advenir ce lieu qui est quand même assez unique et incroyable dans Marseille. Et c'est là que, assez naturellement, le projet, en tout cas l'idée du projet a émergé. Puis après, il a quand même fallu 4 ans de montage sur des sujets financiers, juridiques, trouver les partenaires. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on va faire de cette énorme chose quand même, parce que c'est pas rien. Pour ouvrir, il y a maintenant 1 an, après 1 an de travaux. Donc voilà, et donc le LICA, le Tiers Lab sont forcément intriqués, mais le Tiers Lab, c'est aussi une nouvelle ère qui permet à d'autres structures de venir, à d'autres personnes de s'approprier l'espace et voilà, de plein d'activités de services de voir le jour. Vu que ça fait 1 an, en fait, on a quand même assez peu de recul, mais mine de rien, c'est déjà 1 an d'apprentissage, d'expérience et puis de retour assez chouette. Et donc, on a envie que ça dure très longtemps, mais ça, on verra si c'est le cas. En tout cas, c'est l'ambition.
Et qu'est-ce qui t'a amené alors à travailler pour ce projet ? Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi pour te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Et puis, ouais, nous parler un peu de ce cheminement par rapport à l'écoute aussi qui s'est fait certainement.
Carrément. J'ai grandi en Picardie, si vous voulez tout savoir. Et j'ai débarqué à Aix et à Marseille pour mes études. Et en fait, à la base, j'étais plutôt destinée à une vie... comme peut-être certaines auditrices, plutôt une vie de grand groupe de cabinet de conseil, puisqu'en fait, je travaillais dans la data, initialement, à la RATP chez JC Deco. Ça, c'était ma première vie, un peu conseil, très corpo, voilà, des gros travaux, on bossait sur des appels d'offres, hein, voilà, des sujets assez sérieux. Mais en tout cas, l'aménagement de la ville m'intéressait, mais voilà, c'était une vie, on va dire, CDI tout tracé. Je sais pas exactement, et c'était une question que je me suis posée parce que je sais pas si à ce moment-là je me suis écoutée ou c'est juste si moi j'ai switché et si j'en avais vraiment conscience, en tout cas du processus qui s'est passé, qui m'a amené à ça. Mais à un moment, au bout de 4 ans à peu près dans ces deux structures, j'ai basculé dans une association qui s'appelle Empower et qui accompagne les femmes entrepreneurs, qui est basée en Île-de-France. Et j'y suis restée 3 ans et j'avais ouvert un premier lieu avec l'équipe à l'époque qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Sister, qui est dans le 10e arrondissement à Paris. Et c'était une super expérience. C'est un lieu ressource pour les femmes. C'est moins grand que le 6000 m², mais c'est quand même 500 m² en Île-de-France. Donc, c'est aussi un combat. Et l'idée, c'était d'avoir, pareil, pas mal d'activités, de coworking, d'événements, de formations et d'avoir cet espace dédié aux femmes et pour leur permettre justement d'acquérir des outils, de se rencontrer, de se retrouver, enfin un lieu qui nous paraissait nécessaire. Autre cheminement, pareil, je ne sais pas si je me suis vraiment écoutée, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que jusqu'à un moment, je suis repartie dans le sud, un peu sur un coup de tête, via une opportunité que j'ai eue de bosser à la CCI. Et après, à la fin en fait, d'une mission assez courte, j'ai entendu parler du projet et là, il y a eu un truc un peu d'alignement de planètes où moi, j'avais quand même envie de revenir sur ces sujets de lieu. Je me posais vraiment des questions sur ce que j'allais bien pouvoir faire parce que c'était un sujet très entrepreneuriat, mais j'y trouvais pas trop mon compte. Et il y a eu un truc un peu ping-pong de je contacte un des cofondateurs, je vois l'offre qui sort. Là, je donne tout ce que j'ai, mais vraiment tout ce que j'ai en leur expliquant par A plus B pourquoi il faut que ce soit moi et qu'est-ce que j'aimerais participer à ce projet. On s'est rencontrés, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet qui était encore émergent puisque c'était au moment du rachat officiel et du lancement des travaux. Et donc ensuite, j'ai fait une année... avec l'équipe, qui était vraiment la préfiguration et rentrer dans le dur, de travaux qui ont duré un peu plus longtemps que prévu. Et ensuite, le truc était lancé en novembre 2023, mais véritablement à partir de janvier 2024. Et voilà un peu où ça m'a mené.
Et justement, à Paris, ce lieu, j'y reviens parce que du coup, vous étiez 3 pour monter ce lieu ?
Alors, on était, pareil, ça a été assez intense dans le sens où quand moi j'ai rejoint l'asso, c'était pas une petite asso parce qu'il y avait quand même déjà, en gros, c'était une asso qui faisait surtout des programmes de formation mais n'avait pas d'espace. On était dans un petit appartement à la place de la Bourse et il y a eu une opportunité via un fonds européen. Les fonds européens, ça permet quand même, c'est à la fois une chance, pas une malédiction, mais c'est aussi un poids parce qu'administrativement, c'est très lourd, mais ça permet d'accéder à des fonds importants qui permettaient du coup de financer la moitié des charges d'un lieu en fait. On avait écrit ce projet, on y croyait, mais on savait pas trop si ça allait marcher. Ça a marché, bingo. Là, ça a été assez intense parce qu'on n'était que 2 au début sur ce projet. Le reste des équipes étaient sur la programmation. Je salue Joséphine si jamais elle m'écoute. Mais du coup, très vite, il a fallu reconstituer une équipe. Donc, on est passé de 6 à plus d'une dizaine. parce que du coup, il fallait à la fois proposer des contenus, l'aménager, enfin tout ça s'est fait un peu très vite et dans un contexte de Covid en plus, parce que finalement, voilà.
Qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise, ok, allez, on est deux et on va ouvrir un lieu ensemble? Est-ce qu'il, justement, il y a forcément de l'écoute là qui se passe à un moment en soi pour ce, et puis du challenge peut-être et... Ouais, envie de créer.
C'est marrant parce que il y a de l'écoute, mais en même temps, je pense qu'il y a la réalité du terrain et je trouve que c'est ce qui est le plus dur parfois dans sa vie professionnelle. C'est, pour être très concrète, il y a de l'écoute au moment où on l'imagine. Puis il y a le moment où ça arrive et là c'est patatrac, il faut que ça sorte vite. Donc on déroule un peu les choses comme on les avait pré-imaginées. On se rend compte, c'est à ce moment-là, je trouve que dans la confrontation de la réalité, qu'on se rend compte, est-ce qu'on s'est écouté, est-ce qu'on s'écoute encore quotidiennement, et c'est là où il y a des frictions qui peuvent arriver d'alignement, en fait. C'est ce moment-là, je trouve, où, typiquement, quand un gros projet comme ça se monte d'un coup, il y a des personnes qui peuvent quitter le navire, d'autres arriver, et donc c'est là où il faut être, je trouve, hyper vigilant pour continuer à s'écouter fréquemment. Et du coup, c'est de manière très concrète, ouvrir des petits espaces, mais aussi des plus gros espaces. Parce que je trouve que le temps dans l'écoute, c'est un truc que j'avais pas pris conscience du temps que ça demande. Et en fait, quand on a 1000 choses en tête, à la fois comment je vais trouver des chaises, mince, il y a cet événement la prochaine fois, mince, on n'a pas assez de budget. Et en fait, on n'a plus de temps aussi bien mental que de temps, juste de temps temporel. Et
c'est ça demande une certaine exigence, ouais, finalement.
C'est ça. Et je trouve qu'il y a à la fois... et en plus, il y a aussi un truc de même si on cale très concrètement cette plage d'écoute, on cale une réunion de... On va réfléchir ensemble, donc potentiellement s'écouter et pas juste dérouler un truc opérationnel. Ça émerge pas forcément là. Donc, faut se laisser du temps de rien. Mais du temps de rien, à ce moment-là, on n'en a pas vraiment,
en
fait.
On n'en a pas, ouais.
Donc, c'est assez... C'est dur, franchement. C'est assez dur. Moi ces périodes de lancement, je trouve que c'est les périodes qui sont les plus intenses parce qu'on peut se retrouver, finalement, très étrangement, alors que c'est un projet collectif, assez isolé. Parce qu'on... si on n'est pas vigilant les uns, les unes avec les autres, on peut se retrouver un peu esselé et laisser de côté et être là avec tout un tas de choses émotionnelles, d'incompréhension, d'alignement. Et donc,
qui impacte la vie perso aussi, du coup, évidemment,
puisque tout est toujours lié.
Lié.
Et oui.
Et pour revenir du coup au Tiers Lab que tu nous présentais en début d'émission, qui est donc un lieu de rencontre où on essaie aussi de prendre soin, j'ai l'impression, parce que c'est un lieu où se rassemble la volonté de rassembler les citoyens, les entreprises, de créer du lien, de l'écoute forcément. Et est-ce que tu peux nous immerger dans ce lieu pour nous faire un peu imaginer cet endroit pour les personnes qui ne le connaissent pas, parce qu'il est vaste, il y a un jardin, il y a un restaurant, il y a un café. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu pour qu'on puisse l'imaginer?
Ouais, carrément. Et je pense que beaucoup de choses se passent, notamment à l'entrée, parce que du coup, donc on est dans le quartier, dans le quatrième, dans le quartier des Chutes-la-Vie, qui est un quartier assez résidentiel, où je pense que, sauf si on y habite, on n'a pas trop d'occasion d'aller. Et donc, on est sur une petite butte qui, en plus, est plutôt bordée de maisons. Donc, c'est assez calme, assez agréable, finalement. Et donc, nous, le Tiers Lab, l'entrée de base, c'est un jardin... un portail vert qui a été fermé pendant des années. Et ça a été, par exemple, un signal assez fort de le réouvrir. Et ensuite, une fois que le portail s'ouvre, il y a une première allée qui, en fait, fait un peu comme une espèce de... Moi, je le vois souvent comme une soupape ou un espèce de passage, un peu un truc qui vous fait pénétrer dans quelque chose. On n'est pas directement immergé dans le lieu. D'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est, parce que c'est ce moment, ils se disent « Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est vraiment le bon endroit? Est-ce que j'ai le droit d'être là ?» Il y a encore tout ça qui est en jeu. Et ensuite, on s'ouvre après cette première entrée de quelques mètres, avec des arbres sur le côté, le parc en tant que tel, qui est un gros rectangle de 6000 m². Et donc là, en ce moment, il est vraiment très beau parce qu'il a beaucoup plu à Marseille. Donc, c'est très vert. On a plein de plantes, on a plein de fleurs. C'est très joli.
Bon, avec le début du printemps.
Là, c'est la meilleure période.
Faut y aller.
Ça, ou février, au moment des mimosas, vraiment, c'est le meilleur. Juillet, c'est un peu plus sec, on va pas se mentir. Et donc, la première partie du parc est en fait dessinée par un petit chemin ovale qui fait le tour en fait, de ce que nous, on appelle l'agora, qui est un peu la zone centrale plus plate, dans lequel en fait on a des tables, et donc là vous arrivez directement sur la terrasse du resto, donc qui est sur la gauche. Donc c'est un peu les premières choses qu'on voit. Nous, on a quand même mis quelques petits panneaux pour vous indiquer des choses, et en fait c'est là où les premières fois les gens nous disent en fait, il faut marcher quand même pas mal de temps avant de comprendre et de voir, puisque du coup, la Bastide, donc, qui est le bâtiment principal, qui est une belle Bastide provençale, qui, dont les fondations datent du XVIIe siècle, donc qui a se caché aussi, et qu'on a rénové, en tout cas, on a essayé de rénover avec goût et de garder ce côté-là, est caché derrière un premier bosquet. Et cet espace-là, moi, je dis souvent que c'est le cœur battant parce que cette Bastide, il y a deux grandes verrières, vérandas qui sont très belles, qui sont du coup des choses assez notables, vertes, qu'on, pareil, on a essayé de préserver. Et c'est là où il y a l'accueil, où en fait, pareil, il y a une deuxième terrasse, une deuxième zone où souvent on voit des gens prendre un café, travailler. Et ensuite, on pénètre dans cet espace. Donc, toute cette première partie, c'est vraiment la partie un peu publique, où beaucoup de tous les événements principalement vont se passer là. Où souvent, voilà, les gens s'arrêtent un peu, entre guillemets, à cette partie. Et ensuite, il y a une deuxième partie derrière. Donc, on peut passer des deux côtés de la Bastide, sachant que tout le pourtour est boisé. Donc, ça, c'est assez chouette aussi. Il y a une couronne assez haute avec des arbres. Enfin, voilà, c'est un côté où on oublie presque qu'on est en ville.
Au cœur de Marseille, d'avoir ce poumon vert, c'est incroyable. Ouais.
Je me dis parfois, je comprends qu'il soit lancé dans ce projet complètement fou, parce que perdre 6000 mètres carrés de vert dans une ville où malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'était déjà un objectif,
un gros challenge, ouais.
Ouais, clairement, et nécessaire, quoi, parce que sinon, je pense qu'on n'était pas les seuls sur le dossier de rentabiliser ces mètres carrés. Et sauf qu'il y avait déjà ce bâti, et donc il y a cette première Bastide, et ensuite il y a deux bâtiments derrière, et c'est assez étonnant en termes de bâti. D'un côté, il y a une maison, on va dire, assez récente, des années 60, c'est vraiment une ancienne une maison qui a été construite comme ça et que nous, on a juste réaménagé pour faire des bureaux. Mais il y a, on voit la cuisine de l'extérieur, on voit la petite terrasse, on voit vraiment les chambres se dessiner. Enfin, mais donc maintenant, c'est des bureaux. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle, nous, la pépinière, qui est plutôt un bâtiment en bois qui rappelle l'époque où il y avait plus des activités agricoles, puisque du coup, c'était une Bastide provençale. Donc, c'était aussi un espace sur lequel il y avait des bêtes, il y a eu des activités de culture d'oliviers, il y a encore des oliviers, de blé, tout ça. Et donc, cette partie-là, c'est un grand bâtiment long en rez-de-chaussée, donc sans étage, boisé. Donc, on a retapé aussi avec une autre salle qui est très chouette, qui s'appelle la Fabrique, et d'autres bureaux. Et donc, cette partie-là, elle est moins connue, elle est un peu plus sauvage et souvent un peu plus calme. Et voilà. Et donc, il y a aussi pas mal de choses et une petite prairie qui a, dans nos rêves les plus fous, qui serait une serre ou en tout cas une partie qu'on pourrait cultiver. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui.
Une sorte d'oasis au cœur de Marseille.
Exactement.
Vous êtes combien à peu près sur le lieu ?
L'équipe, donc il y a l'équipe du Tiers Lab aujourd'hui, nous on est 4-5, on va dire, à peu près, on est 5. À la fois sur l'accueil, la gestion, l'entretien des espaces, donc Félix, Claire, Charlène et Lou et Mila qui sont là aujourd'hui. Et ensuite, il y a toutes les personnes du DICA, donc ça fait une vingtaine de personnes, mais il y a surtout les résidents, donc ceux qui ont des bureaux, plus le coworking. Donc au quotidien, on est entre 40 et 60 personnes qui viennent travailler. Et là, de plus en plus, et ça, c'est assez chouette, on voit aussi pas mal de personnes qui viennent prendre un café, déjeuner le midi. Et puis sur le site, en fonction des journées, il y a des journées où il y a beaucoup de monde, où il y a deux formations en parallèle, puisque du coup, c'est aussi un espace, la semaine, qui a vocation à vivre clairement grâce à des locations d'entreprises qui viennent faire des choses ici. Et c'est ça aussi qu'on veut, que ce soit un lieu où, quelle que soit l'organisation, puisse venir organiser son séminaire, faire une formation en terre-paille, tout un tas de choses. Et donc, il y a des jours où on peut être 150, il y a des jours où c'est très calme. Le vendredi, étrangement, est souvent très calme, parce que tout le monde est à la mer. Mais sinon, c'est assez fluctuant. Et même pour nous, c'est agréable d'avoir un peu cette
fluctuation
et pas être tout le temps plein. Mais voilà.
Comment tu t'es retrouvée là-bas ? Est-ce que tu as entendu parler justement de ce lieu-là et tu l'as fréquenté avant d'y travailler ? Est-ce que...
Je pense que j'étais dans une phase où, vu que j'étais pas depuis si longtemps revenue à Marseille, moi je reconnectais avec mon réseau. Et oui, j'en ai entendu parler une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Il y a un moment où tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose. Et vraiment, il y a eu ce truc de j'ai pris contact et l'offre de poste en question est sortie. Et ça s'est fait comme ça, mais je pense que je suis allée sans trop comprendre aussi, parce que même eux, il y avait un plan, enfin en tout cas un dessin, mais en fait c'était encore impossible de se rendre compte. Et j'ai vraiment pris conscience le jour où je suis allée passer mon premier entretien. Les travaux commençaient, donc il y avait des tranchées partout. Ça commençait à être le gros bazar, entre guillemets, mais c'était assez impressionnant. Et tout le monde était l'équipe du LICA, donc c'était même pas 15 personnes, étaient sur le site. Enfin voilà. Et là, j'ai pris conscience du truc en question dont on parlait, qui était quand même assez important.
Et pour revenir sur les différents volets, parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à comprendre au premier abord. Donc, il y a l'espace de travail, l'espace de coworking. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un espace quand même qui est intéressant, parce que c'est des personnes qui viennent travailler, mais qui viennent se rencontrer aussi, qui peut-être créent des synergies. Elles se rencontrent, elles s'écoutent. Comment vous valorisez ce lieu pour parler déjà de ce premier volet ?
Carrément. Bah oui, dans l'idée, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a toujours une projection. On dit quand on a un espace comme ça, oui, c'est un lieu où il va y avoir grave un écosystème, vous allez rencontrer trop de gens.
Ou est-ce qu'on rejoint une communauté d'ailleurs ?
Bah oui, oui, on le fait de fait. Mais moi, j'ai vraiment vu ça naître au fil du. Ça a pris du temps aussi, mine de rien, parce qu'il y avait à la fois pour que le LICA accepte l'ouverture, ça a été aussi une phase de. D'accepter qu'il y ait d'autres qui viennent, de les accueillir. On a une première phase avec pas mal de personnes qui sont rentrées, qui ont appris à apprivoiser le lieu. Enfin, moi, on était assez transparents aussi en disant, c'est vraiment le début. Enfin, vous attendez pas à avoir une communauté vive et pleine dès le début. Au début, c'était assez timide, les gens mettaient un petit peu de temps. Nous aussi, il fallait un peu qu'on sorte un peu tous du guet et que finalement, on se rencontre vraiment. Et je pense que ça, cette phase-là, elle est arrivée peut-être 6-8 mois, un an après, sincèrement, au moment où déjà, il y avait plus de monde, il y avait quand même besoin d'avoir un effet de masse, parce que ces trois bâtiments, c'est bête, mais de fait, d'avoir trois bâtiments, on voit quand même des petites choses, puisque la proximité, elle joue. Quand on est dans un bâtiment, on est plus proche des gens qui sont avec nous. Donc nous, notre rôle, c'est de créer déjà du lien entre ces bâtiments, que les gens se rencontrent. Et donc, c'est là où l'ADN du LICA, moi, je l'ai trouvé intéressante. C'est parce que du coup, dans les structures et les personnes qui viennent travailler, on n'a pas mis un cadre fixe. On s'est dit, on accueille ceux qui viennent aussi parce qu'on a besoin d'argent, mais aussi en se disant, on verra bien qui vient vers nous naturellement. Donc, on a des secteurs différents. On a des structures qui ont un lien avec les transitions, mais ça ne va pas forcément être... le spectre est assez large, honnêtement. Et c'est OK pour nous. Et puis du coup, des gens aussi qui vont être assez différents dans leur manière de travailler, parce qu'on va à la fois avoir des paysagistes, des indépendants, des personnes qui travaillent avec une structure dans une autre ville, des gens qui travaillent sur de la mobilité dans un cabinet de conseil.
Et du coup, vous permettez à des personnes qui n'auraient pas forcément l'opportunité de se rencontrer, de le faire dans ce lieu.
C'est un peu ce que je vois après coup, et qui ont ce lien qui se fait sur les transitions, mais pas forcément d'ailleurs au niveau de leur travail. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de mettre des outils déjà, un annuaire et puis des temps collectifs, un peu des rituels où tous les jeudis midi, on se retrouve, on fait une grande table. Ça, on croit beaucoup au pouvoir de la nourriture et on a la chance d'avoir des grandes tables. Donc, au début, c'était une table, puis une deuxième table, puis une troisième table. Et en fait, là, ça commençait à être très, très grande tablée. Et puis après, il faut... À la fois, moi, ce que j'ai trouvé, il y a un moment où j'étais un peu frustrée parce qu'il y avait plein de gens. J'étais là, mais parlez-vous, faites des choses, on fait des apéros. Et puis... En fait, parfois, il ne faut pas forcément trop guider. Ça s'est aussi fait naturellement sans nous. Et c'est là où je me suis dit, c'est cool, la sauce est en train de prendre. On voit aussi des profils différents, des gens qui sont très moteurs dans la rencontre, d'autres qui sont moins présents, et c'est OK. Et le niveau d'engagement, il va être d'organisations qui deviennent coopératrices, donc qui prennent des parts dans la coopérative, parce que du coup, on n'a pas évoqué, mais qui vraiment
on en parlera tout à l'heure,
dans le vif, et d'autres qui sont un peu plus retirés, mais qui trouvent leur compte aussi. Donc, je pense que nous, ça a été aussi de trouver notre bonne posture sans imposer, parce que nous, le LICA, on a ce truc très lié, on parle tout le temps de nous, de ce qu'on ressent, mais tout le monde n'est pas...
C'est un apprentissage pour d'autres.
Et on le fait du coup, nous, par petites touches, où typiquement, pour donner un exemple, les jeudis midi, on fait ses banquets et souvent après, on fait des petits temps collectifs où chacun peut venir apporter, parler de son projet ou ça peut être un atelier de céramique. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut proposer et nous, on a essayé notamment d'utiliser des outils d'intelligence collective pour décider de choses communes, que ce soit par exemple des marches dialoguées, des élections sans candidat, des outils, c'est des termes que j'emploie comme ça, mais qui nous ont permis par exemple de choisir ensemble le nom d'un espace, de parler en fait d'un truc très concret, mais en utilisant ce petit biais pour soit aller tâtonner un peu sur l'écoute active, soit se poser une question de la prise de décision sans y mettre trop d'enjeux. Et donc ça, c'est un peu les premiers petits pas. Et l'ambition, c'est d'aller effectivement plus loin quand même, et donc de voir et de multiplier ces zones où on peut transmettre ça.
Je trouve ça très intéressant justement de... Enfin, l'écoute est quand même très présente dans l'ADN de ce que vous proposez. que ce soit, comme tu disais, l'écoute active, l'écoute entre soi. Enfin, comment justement la gouvernance, ça se passe? Comment vos liens, les prises de décision sont prises? Est-ce que vous avez une réunion une fois par mois, une fois toutes les semaines?
Ouais, alors là-dessus, en plus, c'est ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que du coup, donc le LICA, la structure mère, encore une fois, qui porte le projet, et une coopérative et une SCOP depuis le début. Ça a toujours été à la genèse, et ça explique effectivement que ce soit autant dans notre ADN. Donc, on a expérimenté tout un tas de modes coopératifs avec des outils différents. Par exemple, à un moment, les fonctions support tournaient entre nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tous les 6 mois, on allait passer un moment, tu passes au RH, puis tu passes à la compta, puis tu passes à la com. Enfin, en fait, il y avait un sujet où l'idée, c'était que ce soit des fonctions un peu tournantes, pareil sur des fonctions de coach direction. Ça a fonctionné pendant quelques années, au moment où c'était une petite équipe, puisque du coup, tout le monde est amené à faire ça. Puis en fait, à un moment, ça ne marche plus. Donc en fait, il y a ce truc de tester, mais c'est vrai que le LICA a vachement ça de le faire. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement dans ce qu'on appelle en holacratie, mais qui nous correspond, nous, parce qu'on... On s'est formé. Enfin, moi, j'ai été formée humblement. Enfin, je suis pas formatrice en intelligence collective, mais on m'a transmis des outils et je continue à apprendre des choses, même si c'est pas mon cœur de métier. Mais l'idée, c'est que tous les salariés, ils passent. J'ai l'impression qu'ils passent. On dirait qu'on passe.
Ouais, allez.
Ouais, tous les salariés vont. Next. Et après, bah, de l'expérimenter. Donc, ça prend. Moi, je vois vraiment les bénéfices, mais il y a une phase un peu d'appropriation, un peu étrange parfois. Mais ça prend du temps. Je vois pas exactement pourquoi est-ce que si je formule mon problème sous forme d'une tension, parce que c'est ça l'idée, c'est d'essayer de trouver, de changer un peu sa perspective. Ses lunettes pour mieux coopérer. Donc, c'est des rouages, des termes différents. C'est un peu laborieux au début. C'est penser un peu contre soi dans le sens où on change un peu ses modes de coopération. Et voilà, le LICA, entre guillemets, peut se permettre ça parce que ça fait partie de nous. Et la question qui s'est posée avec le Tier Lab, c'est comment on trouve le bon mode. Parce qu'on ne peut pas plaquer notre gouvernance COP à un truc qui est beaucoup plus ouvert, puisque du coup, le Tier Lab des Transitions est une organisation à part entière, qui est aussi une coopérative, mais d'intérêt collectif, avec des coopérateurs qui sont des citoyens et des organisations. Aujourd'hui, il y en a 190. Et voilà, et en fait, tout le monde vient avec qui il est, avec des attentes. Nous, il faut clarifier aussi le périmètre de décision, ce genre de choses. Donc, c'est... Honnêtement, on est l'année zéro, hein, c'est encore le tout début. Et donc, ça s'est fait pour l'instant de manière concrète au niveau des assemblées générales. Pareil, on a essayé d'avoir un mode coopératif, ne serait-ce que durant ces moments-là, même si dans les faits, il faut aller beaucoup plus loin, justement. Et donc, c'est un peu le chantier qui s'ouvre. Là, aujourd'hui, on a réélu un nouveau conseil d'administration, donc il y a aussi un conseil d'administration, qui est plus ouvert et qui n'est pas que constitué de personnes internes, mais aussi, donc on a proposé à des structures ou des personnes avec qui on a pu travailler, qui sont venus, qui ont des profils différents, de rentrer dans cette gouvernance plus concrète. Et l'idée, c'est petit à petit de trouver encore une fois ce bon mode parce que il faut s'adapter aussi avec les gens qu'on a et puis il faut être aussi humble dans ce qu'on peut modifier. Donc je pense que là où on a vraiment deux modes, c'est d'être assez exigeant avec nous-mêmes en interne, enfin voilà, d'aller pousser, d'essayer vraiment de se pousser nous et d'être plutôt montrer, donner à voir, espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe, en tout cas proposer une expérience. Après, on s'en saisit pas, ça prend du temps et on n'aura pas l'opportunité de dire à toutes les organisations, tous les salariés, tous les gens, tous les citoyens, vous allez devenir, vous allez nous suivre. Enfin voilà, il n'y a pas ce côté-là, quoi. C'est admettre une grande diversité là-dedans et c'est OK.
Et en 2022, du coup, quand vous avez ouvert le capital, c'était ouvert donc aux citoyens de Marseille, aux habitants du quartier, les entreprises, les grands comptes aussi. Enfin, ça a vraiment mixé plein d'acteurs différents.
Alors plein. Oui, ça a mixé
un certain nombre.
Ouais, un certain nombre.
Aujourd'hui, vous êtes presque 200.
Ouais, on est presque 200. Ça reste une majorité de citoyens. C'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Oui et non. Les citoyens, au début, de manière très concrète, ça a été beaucoup des gens qui connaissaient bien le projet, donc les proches, et même les proches familles. Hein. Je pense qu'au lancement d'un projet, c'est souvent, mine de rien, son premier cercle. Petit à petit, ça a été... on a vu des gens qu'on ne connaissait pas du tout soutenir le projet, parce que c'est un peu... Quand même, on commence à être tous un peu, tous et toutes familiers du côté crowdfunding. Enfin, c'était un peu la même démarche. Et puis après, il y a des entreprises aussi qui sont venues, qui étaient souvent des entreprises partenaires, pareil, avec qui on avait travaillé. sur ce premier lancement qui a été même qui a enfin cette première campagne avant même l'ouverture. Et ensuite on en a refait une deuxième qui s'est clôturée là récemment. Et là, tout l'enjeu, c'était justement de s'ouvrir plus et d'aller convaincre d'autres. Donc pareil, on a eu des citoyens, des voisins, des résidents, des coworkers, donc des usagers, puisque c'est quand même aussi l'idée, c'est que les usagers puissent venir dedans.
Et c'est tout public, intergénérationnel,
tout public.
Il y a des jeunes comme des plus âgés qui prennent part
Ben, honnêtement, je ne saurais pas les chiffres, mais oui, moi, je vois quand même une assez grande mixité. Ça, c'est plutôt cool dans les profils. On n'a pas une communauté de 2 millions de coopérateurs, mais dans tout ça, il y a quand même assez, ouais, des profils assez différents. Et typiquement, c'est ça qu'il faut qu'on travaille plus, c'est une meilleure connaissance. Mmh. Parce qu'on a un listing avec des noms, on repère des noms, mais on ne connaît pas tout le monde. Il y a ceux qui viennent aux âgés. Encore une fois, cet investissement, il est différent. Mais oui, c'est assez mixte. Et dans les organisations, là où on était assez content, c'est que la ville de Marseille est rentrée en tant que coopératrice dans le Tier Lab des Transitions. Et ça montre bien aussi un changement. Et on espère que ça va permettre d'impulser, voilà, que d'autres structures se saisissent de ces sujets, deviennent aussi actrices concrètement, puisque bah, c'est l'idée en fait d'impliquer d'autres organisations. C'est le cas aussi de la Friche et d'autres organes. Donc voilà, de renouveler ça et que ça grossisse petit à petit comme une communauté.
D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres structures qui fonctionnent pareil que vous et justement vous vous rencontrez pour échanger?
Oui, on a un petit... c'est marrant parce qu'il y a un truc un peu de groupe de parole. C'est à la fois des espaces de décompression. Et ça, on l'a fait parce que vu qu'on a plein d'activités différentes, allant du coworking, à de la location, de la formation, de la programmation, depuis un an et demi, il y a par exemple sur le coworking, on s'est lié aux autres coworking du centre-ville. Et on a créé un réseau qui s'appelle les copains du cowork, les copenwork. Voilà, je glisse ça comme ça. Et donc, ça va être... on se voit tous ensemble. Enfin, en tout cas, les coordinateurs et les gestionnaires, on se rencontre et on en profite pour faire un apéro, pour mixer aussi nos communautés. Puis comme ça, on se partage des conseils et ça fait toujours du bien. Et par exemple, on le fait à un autre niveau. Déjà, on est rattaché au réseau de tiers-lieux, sud-tiers-lieux. Et qu'il y en ait l'équivalent aussi au niveau national. Il y a un peu ces gros réseaux, mais il y a aussi des organisations sœurs un peu qui nous ressemblent. C'est le cas, par exemple, du hameau de Montrieu, qui est basé dans la Sainte-Baume, qu'on a rencontré, on a fait notre séminaire, moi, je suis retournée. Je trouve qu'on a cet ADN un peu plus proche parce qu'on, pareil, ils traversent, comme nous, des questions de gouvernance, ils ont plein d'activités, tout ça, donc... Effectivement, je pense que c'est essentiel et on l'a fait. Il faut qu'on le fasse, qu'on continue à le faire, quoi. Et l'idée aussi, c'est de créer du lien toujours plus. Et ça permet d'enrichir aussi sa vision, sa stratégie. Enfin bref, en tout cas, sinon sans ça, franchement, on meurt, quoi. Parce que ça fait juste du bien d'être aussi avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit.
Ouais, c'est intéressant qu'il y ait cette coopération entre acteurs. Donc en tout cas, si des auditeurs veulent devenir coopérateurs, c'est possible. C'est accompagner finalement les actions menées par le lien en faveur du lien social, transformation du quartier. S'ils veulent le devenir, c'est à partir du site internet, c'est ça?
Oui, il y a un...
Parce que moi, j'ai des amis qui m'ont demandé.
Eh bien, tout à fait. On a un site internet l'ICA Tier Lab Mixé. Et en gros, en haut, vous avez pas mal de choses. Et notamment sur la partie Tier Lab, il y a une page appel à coopérateurs où on détaille aussi, parce que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes montants déjà, et puis c'est pas les mêmes implications. Et voilà. Et puis après, surtout s'il y a des questions, en fait, maintenant qu'on est surtout ouvert, faut pas hésiter à venir nous voir, en parler. On explique plus clairement parce que parfois, une page internet, c'est bien, mais en discuter, c'est mieux.
Mmh. Oui. Mais moi, du coup, je m'interroge sur vraiment deux choses, c'est-à-dire toi, ton expérience personnelle, travailler dans un lieu comme ça, déjà, est-ce que tu te vois peut-être plus tard retourner dans un monde de fonctionnement et un mode de travail qui est différent de celui-là? Et à quel point, du coup, c'est lié aussi, ça peut impacter ta vie personnelle? Est-ce que ça a permis de, je sais pas, d'influencer tes relations amicales ou autres? Est-ce que ça t'a changé?
Oh là là, bon, si l'équipe du Lycan m'écoute, bref, c'est pas, je l'ai saucé, mais oui, ça m'a un peu changé, j'avoue. Pour répondre à ta première question sur le mode de fonctionnement et d'autres types d'organisations, c'est vrai que j'aurais du mal à retourner dans d'autres types d'organisations parce que ça, là, j'ai vraiment trouvé à la fois une forme de... C'est étrange parce que j'ai une vie bien remplie en ce moment, on s'ennuie pas, mais en même temps de paix et d'harmonie parce que, effectivement, on s'écoute plus. C'est bête, hein, mais c'est véridique. Et moi, quand je suis arrivée à l'intelligence collective, j'avais un peu l'impression que c'était un mot qu'on placardait sur comment dire, un poster dans une salle de réunion. Et je trouvais que c'était un peu des poncifs. Oui, bon, bah d'accord, l'intelligence émotionnelle, moi aussi, je sais parler, dire quand je suis triste. Point. Enfin, j'étais un peu... J'y croyais, mais sans l'avoir vraiment, je pense, vécu. Et ce mode de gouvernance, à la fois, il muscle sa capacité à... Enfin, comment dire, à coopérer dans le sens où, bah oui, il faut se mettre, il faut réfléchir ensemble aux meilleurs moyens. Très concrètement, hein, ça va être quel type de réunion, comment j'exprime mes besoins, de qui j'ai besoin, de s'autonomiser sur ces projets, mais ça ne veut pas dire s'isoler. Donc, c'est vraiment des choses très différentes, mais vraiment ces capacités-là d'organisation, et ça demande aussi, bah, personnellement, d'être très transparent. Enfin, voilà, il y a vraiment ce mode-là, et en même temps, ça muscle aussi son intelligence, sa connaissance de soi. Parce que bah, du coup, s'il y a ça, si l'idée c'est de tendre vers plus de coopération, c'est aussi comprendre, c'est écouter. Et ça, notamment dans les périodes de rush et de montage, pour l'avoir revécu avec le tiers-là, bah, c'est hyper intense. C'est savoir dire stop à un moment, laisser l'espace. Et ça, j'avoue que ce mode de gouvernance va tirer des deux côtés et montrer que, enfin, un miroir de dire bah, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Et toujours être aussi dans la recherche. Moi, ce que j'ai trouvé très chouette et que vraiment je trouve assez fabuleux dans ce qu'on essaie de faire en interne, c'est au sein de notre équipe, c'est vraiment il y a une situation, ce qu'on appelle nous une tension. Par exemple, on parle plus de problème, on parle de tension. C'est, je constate qu'il y a une situation qui va gratter, me crisper, quelque chose qui me manque, une information. Et donc, comment j'identifie ça? C'est pas nécessairement un problème, c'est plus que tout change tout le temps. Et donc cette tension, c'est la vie aussi, enfin, c'est aussi bête, hein, mais ça veut dire qu'un organisme qui a des tensions, c'est un organisme qui bouge. Et donc c'est l'identifier et être en capacité de l'exprimer, de la définir, de la partager, et du coup collectivement comment on va régler cette tension là et d'être toujours en fait dans nos réunions, quand on a vraiment ces moments de tension où chacun les exprime, c'est comment le reste du collectif se met au service de ma tension à moi et qui m'incombe dans mon rôle, dans mon poste. Et donc vraiment, il y a ce travail qu'on essaye de faire. Et donc se mettre au service d'eux, c'est un truc qui est hyper chouette aussi, parce que d'une certaine manière aussi, moi, ce que j'ai appris, c'est à mettre, enfin ce que j'essaye encore de faire, mettre un peu de distance aussi. C'est pas moi, Julie Telfour, ce projet. Enfin, finalement, l'idée, c'est que ça vive après moi, que il y ait une organisation, il y ait des choses qui soient mises en place pour que moi, en tant qu'humaine que je suis, puisse vivre sans moi, et puis que ça m'impacte pas personnellement. Et je trouve que c'est assez important de le rappeler dans un moment où tout le monde peut avoir des moments de souffrance. Donc voilà, donc je trouve que j'aurais un peu du mal, j'avoue, à retourner dans un bâtiment fermé avec un mode d'organisation un peu plus old school, on va dire.
Ouais, de trouver le juste équilibre en étant impliqué, engagé, mais aussi savoir prendre le recul, ouais, comme tu dis, à certains moments.
Et en même temps, je vous dis ça, mais on a connu des burn-out, ça veut pas dire qu'on n'a pas de conflit. Enfin voilà, mais en même temps, il y a un truc où on met pas sous le tapis. En tout cas, on essaye de pas le mettre sous le tapis et de...
faire autrement, c'est possible.
Ouais, c'est un peu ça. Moi, ça m'a un peu donné ça. Et j'avoue que c'est quand même assez libérateur. Et je me dis c'est pas parfait. Personne, aucune organisation n'est parfaite, mais au moins j'y trouve un peu plus mon compte, quoi.
Du coup, ça t'a changé.
Oui, et du coup, ça m'a changé. Et par exemple, maintenant, j'utilise des outils d'intelligence collective avec mes amis, ce qui est absurde. Mais par exemple, quand je sais qu'on va avoir une grosse discussion, je l'ai fait il y a pas très longtemps avec mes meilleures amies, si jamais tu m'écoutes, Nesrine, où vraiment, on s'est posé notre intention au début sur qu'est-ce qu'on attend de cette discussion l'une de l'autre, de poser un cadre en étant hyper vigilante sur bien s'écouter l'une et l'autre. Je sais qu'elle est aussi vachement friande de ça, mais on l'a essayé de l'appliquer. Et ça a été très chouette et ça a fonctionné. Et donc, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. Du coup, sur l'écoute active, même, je trouve que, par exemple, dans un grand groupe, moi, je le sens maintenant quand il n'y en a pas. Et une fois qu'on a ça, c'est difficile de faire sans, de se retirer ces lunettes-là.
Et puis, ça peut se décliner dans tout rapport humain, en fait.
Complètement.
En amitié, en amour, au boulot.
Et du coup, c'est marrant parce que souvent, les gens te disent, il y a une séparation vie pro, vie perso, il faut un peu segmenter. J'y crois pas trop. Je pense que c'est un peu se leurrer de se dire ça. Après, l'important, c'est de trouver les bonnes passerelles et à mettre aussi des moments de pause, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est un truc un peu... Mais oui, ça impacte. Je vais pas dire que c'est comme une thérapie, mais en tout cas, moi, ça a amené à vachement plus... On a dans nos formats d'intelligence collective, on a tout un module sur la CNV. Moi, pareil, la communication non violente, je pensais pensais que c'était un truc de bisounours avec un listing de d'émotions. Et en fait, quand je me suis retrouvée moi-même à être un peu limitée dans ma capacité d'expression d'émotions, je suis là, mais en fait, c'était pas du tout, quoi. Et donc, ça, voilà. Et ça, après, une fois qu'on l'a au travail, on l'a aussi le soir chez soi.
Ouais,
quoi.
C'est dans son petit panier, on l'utilise voilà, quand on en a besoin.
Ouais. Donc mon but là, c'est maintenant, ma prochaine étape, c'est avec ma famille. Donc gros sujet.
Poser une intention, tu veux dire, on en parle avant, c'est-à-dire si par exemple on se voit, tu me dis ton intention à toi, je te l'ai, et moi je te dis aussi la mienne.
Oui, c'est ça. En fait, c'est clarifié. Je pense qu'il y a souvent, par exemple dans la gouvernance, en fait, ce que ça permet, moi je trouve qui est hyper chouette, c'est de lever l'informel. L'informel et les attentes, enfin, clarifier les attentes, ce qui fait que, par exemple, on va avoir une relation qu'on se connaît depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, et depuis 5 ou 6 ans, on avait ce mode de fonctionnement qui fait que, de manière informelle, t'attendais de moi telle et telle chose, mais en fait, si ça n'a pas été clarifié ou dit, bah, moi, me suis transformée entre-temps, et puis voilà, et donc, et surtout, au début d'une, je trouve, d'une grosse conversation, c'est être là, bah, moi, je serais contente si j'arrive à t'exprimer ce que je ressens, par exemple, ou si mon intention, c'est vraiment de te donner de l'espace, ou j'ai besoin qu'on soit équitable, ou j'ai besoin qu'on se focalise sur telle chose, parce que, je sais pas, dans ma tête, j'ai déjà d'autres trop de choses, enfin voilà, c'est d'être aussi assez transparent sur ce qu'on attend et aussi du coup au regard de ce que l'autre attend, peut-être pouvoir rééquilibrer et déjà de commencer sur ce socle où on se comprend, quoi.
Oui, pour éviter toute interprétation, ouais. Prendre les choses pour soi, c'est souvent ça qui fait défaut.
Exactement.
C'est et qui peut nuire complètement. Et d'ailleurs, par rapport au volet donc formation et accompagnement, vous avez une approche tête-cœur-corps.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage?
Ouais, carrément.
En quoi ça consiste?
C'est de voir une espèce de... C'est un tout, quoi. Enfin, souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a forcément un lien. Par exemple, écouter, s'écouter, c'est pas que s'écouter dans ses pensées en permanence, c'est s'écouter quand on a mal à un endroit, quand on dort mal, quand on a la gorge qui serre. Tout ça, en fait, c'est aussi des signaux. Par exemple, moi, je ne l'ai pas fait en novembre dernier. J'avais mal aux jambes, enfin aux genoux. Et donc, j'ai poussé. Alors que dans ma tête, ça, j'avais l'impression que ça allait. Donc, c'est aussi être... moi, je le vois vachement comme ça. Quand on est vraiment ancré, c'est quand ce qu'on pense se... Par exemple, moi, je sais qu'un signal assez fort, c'est très bête, très bizarre. Mais moi, mon signal, c'est quand j'ai des nœuds derrière les omoplates. Très bizarre.
Le dos.
Ouais, le
on
dos,
a plein
le
dos.
Haut du dos. Mais vraiment, c'est ma zone. Et quand je commence à avoir des nœuds, je me dis, là, il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est des petits signaux. Je trouve qu'on peut tous et toutes... ça se loge dans plein d'endroits différents. Et souvent, quand on a son corps délié et qu'on est bien, on le sent tout de suite. Et ça se traduit par des émotions. Enfin, en tout cas... on avait un peu ce truc de le corps, l'esprit, tout séparé, un peu une conception à l'ancienne, et donc le tête-cœur-corps, c'est quelque chose sur lequel on revient en permanence sur les trois étapes, quoi, les trois grands checks à faire, quoi.
Ouais, ressentir.
Exactement, et pas que l'un ou que l'autre. Même si parfois c'est intéressant, par exemple, il y a un outil qu'on fait qui s'appelle les 5 chaises, où une personne va parler et d'un sujet, quel qu'il soit, qui est sur la chaise principale, et les quatre autres personnes, il y en a une qui va se focaliser sur les mots, une qui va se focaliser sur le corps, une qui va se focaliser sur les émotions, et une autre qui va se tourner. Bref, et du coup, ça permet de montrer que si on n'utilise qu'un seul de ces segments, bah, on va pas entendre la même chose, et donc c'est hyper vif. Enfin, moi, ça m'avait, quand je l'avais, première fois que j'avais fait, du coup on tourne, donc chaque personne expérimente chacune des postures, et on voit qu'effectivement si on met toute son attention et sa manière de penser, enfin d'écouter, voilà, ça va, le résultat va pas du tout être le même, et on va pas entendre la même chose du tout, alors que c'est la même personne qui a parlé et qu'on était là au même moment et que ça a duré 5 minutes. Donc c'est assez édifiant et
ouais, c'est assez puissant.
Ouais,
comme
voilà,
outil.
C'est ça. Et une fois qu'on en a pris conscience, bon, je dis pas qu'on est toujours tout le temps aligné, loin de là, mais en tout cas, de checker. Moi, j'ai une de mes collègues qui était là, les trajets de vélo, par exemple, c'est des moments un peu de check, genre tiens, et de scanner un peu tout ça, quoi.
Et tout à l'heure, tu l'as brièvement évoqué, mais c'est aussi un espace important, c'est le restaurant avec le paysan urbain et puis le café...
Le présage.
Et le café graine,
ouais.
Tu nous as parlé aussi de la nature qui est au cœur aussi de ce lieu, de respecter les saisons. J'imagine que c'est un lien aussi dans la cuisine qui est proposée. Je sais que le restaurant, il fonctionne à l'énergie solaire. Il y a toute une démarche par rapport à ça, d'écouter les cycles de la
nature.
Tout
à fait. Carrément, ça faisait complètement sens. Hein. L'équipe du présage, on se connaissait en fait avant. Et eux, en fait, au moment où nous, on ouvrait le Tier Lab, travaillaient sur l'ouverture d'un projet d'ouverture d'un restaurant qui est à Château-Gombert, donc qui existe aujourd'hui. Donc, ils ont leur propre restaurant qui est super, je vous invite à aller voir. Mais du coup, en parallèle, avant d'ouvrir ce restaurant, ils avaient rénové un conteneur pour en faire une cuisine extérieure. Ils l'avaient un peu sur les bras au moment du lancement de leurs travaux. Et oh, nous, on avait un jardin incroyable. Donc, un peu naturellement, ils l'ont posé là. Et puis, on s'est dit, bon, faisons-le, enfin, cuisiner, parce que c'est ce que vous savez faire. Nous, on s'était posé la question de l'interner, mais non, l'internaliser, pardon, mais bref. Du coup, ça s'est fait et ça faisait sens aussi parce que eux ont vraiment cette attention hyper forte du fait notamment de la cuisine solaire. Donc, la cuisine solaire, c'est utiliser le soleil pour chauffer les plats. Et donc, ça peut se faire avec des fours qui sont de plein de formes. Il y en a, vous pouvez en avoir chez vous. C'est très chouette et ça, y a clairement un intérêt écologique, mais au-delà de ça aussi, je trouve que ça remet un peu un curseur aussi sur la manière de cuisiner qui est plus douce. Enfin, ça apporte quelque chose en plus. Et puis, l'équipe très chouette de la resto, évidemment, travaille avec des produits bio, locaux, de saison. Ça va de soi. Mais ils ont une attention particulière aussi sur le sourcing des aliments, de ce qui va être proposé. Ils travaillent sur une carte assez simple qui change, en fait, toutes les semaines. On le voit, hein, c'est hyper chouette d'avoir un endroit où manger. Donc,
c'est un lieu de rencontre
carrément. Au début, il fallait que ça se fasse connaître. Mais là, ça y est, on voit chaque midi des gens qui viennent, en plus, qu'on ne connaît pas, qui se posent.
Avec les beaux jours qui reviennent.
Oui, exactement. Ouais. C'est trop bien.
Le paysan urbain. Ouais.
Non, le
présage. En plus, on les a reçus à la radio en plus.
Mais alors, moi, j'ai une petite question et c'est vrai qu'on n'a plus trop de temps, mais je me demandais vraiment aussi la place du numérique. Parce que. Parfois, on pense que le numérique et le lien social est quand même sont un peu aux antipodes. Mais du coup, quelle est la place justement dédiée au numérique? Alors, grosso modo, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps et j'imagine qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais je m'interroge en effet sur ce genre de lieu qui prône quand même le lien, la coopération, l'écoute, tout en prônant aussi les nouvelles technologies et ces innovations.
Ouais, complètement. Le LICA, donc c'est le laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Donc il y a toujours eu pareil cet ADN, ce côté IA, digital, numérique, qui continue de l'être. En tant que formation. Donc forcément, je pense qu'on cherche encore la bonne place du numérique. Donc ça va à la fois être pour nous un outil pour se faire connaître et on fait un peu la base. Aujourd'hui, on aura un peu je pense qu'on est plus encore dans une phase de à la fois d'observer comment les gens vont s'approprier. Est-ce qu'ils vont... Pardon, je suis en train de m'étouffer.
Juste, on n'a plus d'eau.
Ça va aller, je vais tenir. Comment, en fait, par exemple, typiquement, je trouve que dans beaucoup de lieux, il y a beaucoup de QR codes. Et nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on met des QR codes partout? Non, enfin, de toute évidence. Mais en même temps, ça fonctionne. Donc, quelle est la juste place de ça? Et surtout, pour montrer à voir, parce que le positionnement du LICA, que je trouve hyper intéressant, c'est que l'IA, c'est un sujet. Il y a un sujet aussi de sensibilisation et de vulgarisation à faire. Donc, on le fait via des événements. Là, on va le faire via une expo. Donc aussi apporter du contenu pour que juste on puisse déjà comprendre de quoi on parle. C'est un peu ça l'idée. Puis après, de trouver les bons outils. Et typiquement, là, on est en ce moment, pour vous donner un exemple, ce qu'on appelle nous une résidence sonore avec un collectif qui s'appelle Copy Carbon, qui est dans une phase d'enregistrement d'épisodes qui vont ensuite être placés dans le jardin.
Une balade sonore.
Exactement.
J'ai vu ça sur votre story tout à l'heure.
Oui, voilà. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est assez chouette parce que c'est un outil numérique. Se pose la question du médium. Donc, il y aura un site internet, un réceptacle, et donc comment on le traduit dans l'espace pour lui donner vie. Et donc, je pense que ça va être une zone très chouette qu'on va explorer, qui va être assez concrète aussi, la juste place, entre guillemets. Et voilà,
oui, on la cherche encore. De toute façon, ça évolue tellement vite aussi, tout ça, qu'il faut s'adapter un peu.
Il faut y aller, il faut trouver le bon espace.
De l'innovation, de l'IA, mais de l'éthique.
Et ouais, c'est ça,
l'éthique. On est fatigués, c'est ça. Ouais.
Il faut de l'eau.
Et on arrive en fin d'émission. Est-ce que vous avez une actualité assez dense? Est-ce que tu veux nous partager certains événements auxquels on pourrait s'inscrire, qui pourraient nous donner envie là pour le printemps?
Oui, tout à fait.
J'ai vu que vous accueillez aussi des événements dans votre lieu, notamment le Bon Air Festival.
Tout à fait. En fait, dans les événements qu'on va trouver au Tier Lab, va y avoir à la fois des événements qu'on va porter nous, mais aussi d'autres. Et c'est tout l'enjeu. Et donc là, très concrètement, dans les prochains jours, il y a un petit déj avec Impact Score, donc c'est plutôt pour une cible professionnelle, mais sur tous les sujets de RSE, ça va être assez chouette et ça va avoir lieu la semaine prochaine. Et ensuite, on a plutôt des événements les jeudis soirs, donc il va y avoir une rencontre avec un chaman qui s'appelle Asosa, qui va être trop bien, c'est le troisième chaman qu'on fait venir, grâce à une anthropologue qui s'appelle Sabah Ramani, et l'idée, c'est vraiment de créer un moment d'écoute, encore une fois, et de partage, et donc ça se fait dans le jardin, il y a toujours plein de monde, c'est hyper intéressant, donc l'idée, c'est d'avoir aussi une vue vraiment d'échange et de comprendre aussi que on parle donc de peuple nature
et d'expérimentation aussi.
Ouais, bah du coup il y a souvent une cérémonie, bref c'est des expériences en soi, donc ça c'est très chouette. Et ensuite par exemple on a un autre format avec une autrice du coup qui va venir avec Nelly, j'ai oublié le nom de famille, mon dieu, pardon Nelly, qui vient et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Épuisement, qui va être très chouette, et ça pareil ça va être fin mai. Et sinon, il va y avoir des formats un peu plus gros. Donc, le Bonheur qu'on a cité, on a aussi un concert avec le festival IC Jazz Fest, donc festival de jazz de Marseille, qui aura lieu aussi au printemps. Ça, les infos vont venir. Puis sinon, tu as parlé de la saison. Et donc, nous, on a aussi ce rituel maintenant. À chaque changement de saison, on fait une fête. Donc, la prochaine sera la fête de l'été.
Oui.
Mais toutes les infos que j'ai données assez partiellement sont sur Internet, sur nos réseaux et surtout sur notre agenda. Et c'est là où tout se trouve. Voilà, pour pouvoir
merci beaucoup
nous rencontrer,
Julie. Ouais, merci Julie pour ta venue à l'antenne.
Aurais-tu donc une petite chanson? Comme à notre habitude, on demande à nos invités de nous donner une chanson du moment qui leur parle,
qui les inspire.
Voilà, ouais. Exactement.
Ouais, carrément. Je sais pas pourquoi, c'est la dernière que j'ai écoutée, c'est Burna Boy et c'est Last, et je crois que c'est parce que c'est une chanson qui met vraiment très bonne humeur.
Moi, je l'adore aussi.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à
vous.
Merci à toi. Très belle soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve dans un mois pour notre prochaine émission. Belle soirée.
Belle soirée. Now everybody go to breakfast. Shayo. Shayo. Choco Pao for the result. Nothing to discuss, oh, cause I think when by default and without any doubt, oh, I'm a me happy adult, oh, I no go feed the girl, I no go feed the girl insult, oh, I'm a mind that's with the talk, oh, I put my life into my job and I know I'm in trouble, she manipulate my love, oh, I know holy, and I know that get boss, like the baba fry, oh, my eye, oh, don't cry, oh, Soboma, I dey try to buy moto, one Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django lover. Feelings been dey swing like Django lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you remake could have been all over. My feelings today swing like Django lover. Feelings today swing like Tip Tip Timbani at you. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you when I for do anything you want me to do? For you, and if I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life, you will be my wife and we'll get it right. We don't cast, last. Now everybody go to breakfast. I have to say bye bye, yo, bye bye, yo, to the love of my life. My eye, yo, don't cry, yo. I need big boy and shy, yo. Oh,